VOA Afrique, les infos à Washington.
Georges Bion, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. L'accusation a assuré jeudi, au troisième jour du procès historique de Donald Trump devant le Sénat américain, que le président méritait d'être destitué parce qu'il s'était pris pour un roi. Au lendemain d'une séance consacrée à exposer les faits, les procureurs démocrates se sont évertués à démontrer les arguments avancés dans les médias par les défenseurs du président qui ne se sont pas encore exprimés à la barre. Le président a commis un abus de pouvoir en demandant à l'Ukraine d'annoncer une enquête sur Joe Biden, son adversaire potentiel à la présidentielle du 3 novembre, afin de le mettre à genoux, a plaidé l'un des procureurs, Jerry Nadler. Et l'administration de Donald Trump va limiter les visas octroyés aux femmes enceintes soupçonnées de vouloir venir aux États-Unis pour que leur enfant bénéficie automatiquement de la nationalité américaine. Irénée Amanombo.
À compter d'aujourd'hui 24 janvier 2020, le département d'État ne va plus délivrer de visa de visite temporaire aux étrangers qui veulent entrer aux États-Unis pour du tourisme de maternité, a annoncé hier la Maison-Blanche dans un communiqué. Les nouvelles règles visent clairement les femmes qui se rendent aux États-Unis pour y accoucher afin de permettre à leur enfant d'obtenir automatiquement et de manière permanente la nationalité américaine. Ce changement réglementaire est nécessaire pour renforcer la sécurité, le système d'immigration des États-Unis et l'intégrité de la citoyenneté américaine, explique la présidence américaine. Elle estime que l'industrie du tourisme de maternité menace d'être une surcharge pour les hôpitaux du pays, sans compter qu'elle alimente les activités criminelles. Mettre fin à ces failles flagrantes du système américain va permettre de combattre ces abus endémiques et en fin de compte protéger les États-Unis, a insisté la Maison-Blanche, assurant vouloir aussi défendre l'argent des contribuables américains. Il suffit de naître aux États-Unis pour devenir américain. Donald Trump, qui a fait de la lutte contre l'immigration une de ses priorités, avait ouvertement menacé de s'attaquer aux droits du sol.
La Chine a relevé aujourd'hui à 25 morts et à 830 cas le bilan de l'épidémie due à un mystérieux virus, a indiqué la Commission nationale de la santé. Peu avant le nouveau bilan aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, avait décidé de ne pas déclarer d'urgence internationale face à ce nouveau coronavirus. L'OMS demande à Pékin d'assurer que le confinement de millions d'habitants soit de courte durée. Jacques Aristide.
La réunion du comité d'urgence de l'OMS a duré 2 jours. Son directeur général dit ne pas déclarer pour l'heure une urgence de santé publique de portée internationale, mais Tedros Adhanom Ghebreyesus ajoute ceci. Ne vous y trompez pas, c'est une urgence en Chine. Ce n'est pas encore une urgence sanitaire mondiale, mais cela pourrait le devenir, avertit-il. La Chine a confiné quelques 20 millions d'habitants autour de Wuhan. Le patron de l'OMS estime que la Chine a pris les mesures qu'elle juge appropriées pour contenir la propagation du coronavirus à Wuhan et dans d'autres villes. Il dit espérer qu'elles seront à la fois efficaces et de courte durée. Et pour l'instant, ajoute-t-il, il n'y a aucune preuve de transmission interhumaine en dehors de la Chine.
Au total, 13 municipalités chinoises ont pris des mesures de confinement dans la région de Wuhan, dans le centre de la Chine. Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi qu'il dévoilerait probablement mardi son plan de paix pour le Proche-Orient. La Maison-Blanche a aussi annoncé que le premier ministre israélien et son rival politique, Benny Gantz, se rendraient la semaine prochaine dans la capitale américaine. L'autorité palestinienne a réitéré jeudi son rejet du projet de paix de la Maison-Blanche, mettant en avant le fait que Donald Trump avait reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël.
Nos infos sur voaafrique.com.
À Washington, il est 6h05. Visite de 5 jours à RDC de la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet. Madame Bachelet a commencé son périple congolais après la publication d'un rapport onusien selon lequel un millier de personnes ont été tuées dans les violences intercommunautaires en Ituri depuis fin 2017. Madame Bachelet va boucler son séjour en RDC à Kinshasa, où elle rencontrera le président de la République, Félix Tshisekedi, à la fin de son séjour, et ce sera le 27 janvier. 24 janvier 2019, 24 janvier 2020, il y a un an jour pour jour que le président Félix Tshisekedi a été investi comme successeur de Joseph Kabila et nouveau dirigeant de la République démocratique du Congo. Quel bilan ? Eddy Sango a joint à Kinshasa l'éditeur du quotidien La Prospérité, Marcel Ngoui.
On peut considérer que le discours du chef de l'État, lorsqu'il a dressé l'État de la nation devant les deux chambres de parlement réunies en congrès, a établi un certain nombre de réalisations en termes de ce qu'il a pu mener comme action. Globalement, lui-même, le président de la République, a dit que la première année ici aura été une année de prise de contact. Une année pour déblayer les terrains, une année pour renforcer, pour réchauffer les relations.
Il a consacré cette année à l'action. D'abord, il a promis la construction de quelques infrastructures, mais où en est-on ? On parle par exemple de saute mouton, mais où en est-on ?
C'est difficile de vous dire aujourd'hui on a atteint ça parce que la première année n'aura permis au chef de l'État actuel que de mettre en place les mécanismes devant faire en sorte que le nouveau système puisse fonctionner. Allusion au fait par exemple, à la mise en place des institutions. Vous êtes élu président, investi président, mais vous trouvez un gouvernement qui est en place qui dure plusieurs mois. Et finalement, il fallait trouver un consensus parce que c'est un gouvernement de coalition, c'est un régime de coalition. Il fallait trouver un consensus autour d'abord du premier ministre. Ça a pris 5 mois. Il fallait mettre en place un gouvernement. On est arrivé jusqu'au mois de septembre 2019. Il était question de voter un budget parce que pour passer à l'action, il faut des moyens. Les moyens, le budget qui était en cours était un budget épuisé. Donc, on a passer du temps à installer les institutions, à prêter ce qu'il faut, à prêter la loi des finances, à mettre en place les mécanismes qu'il faut pour décoller. C'est justement ça qui a permis au président, parallèlement à l'installation de ces institutions, il y a eu une phase importante concernant la relance des relations sur le front diplomatique.
Un an depuis que le président Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, l'insécurité persiste dans l'est du pays. Quel bilan faire ?
Aujourd'hui, Beni n'est pas qu'une vaste zone d'opération où les services sont en train d'expérimenter leur puissance de feu, mais il y a beaucoup d'autres zones. En Ituri, il y a aujourd'hui d'autres fronts politiques. Ce qui est important, c'est leur programmation, c'est aussi les moyens, c'est aussi avoir les capacités, la volonté politique de réaliser et engager le pays sur les nouveaux rails.
Sur le plan politique, le gouvernement est basé sur un accord de coalition. Quel bilan faire de cette coalition ?
Contrairement à ceux qui pensent que les contradictions peuvent forcément renverser le pays, moi je pense que les contradictions sont le moteur du développement. Je jette plutôt un brin de sur la suite. Il suffit que les deux familles politiques qui sont aujourd'hui organisées en coalition puissent se regarder en face, discuter sur des questions sensibles, trouver des issues pour que finalement, ils arrivent à avoir des interstices pouvant permettre de refaire décoller ce pays. C'est même une opportunité que les deux forces politiques, lorsque vous avez des gens qui ont passé 37 ans d'opposition, qui savent organiser la contestation permanente, et vous avez des gens qui ont passé plus de 18 ans à gérer, qui ne sont pas forcément passés par l'opposition politique, qui sont venus par la force des armes. Moi, je crois qu'il faut qu'on recourt à ce qu'on appelle l'union fait la force.
Marcel Ngoï, éditeur du quotidien La Prospérité, paraissant à Kinshasa. En Guinée, il y a eu encore mort d'homme hier à Labé, dans des heurts, entre des habitants et les forces de sécurité. Labé est l'un des foyers de la contestation qui secoue le pays depuis 3 mois. Abdoudramandia.
Le collectif qui anime la contestation n'avait pourtant pas appelé à la mobilisation, mais les tensions sont restées vives à Labé, dans le centre du pays. La ville est en ébullition, a déclaré hier le maire Mamadou Aliou Lali Diallo, qui ajoute qu'il y a eu 2 morts et au moins 10 de blessés, pointant du doigt les tirs des forces de l'ordre. Depuis le début des manifestations à la mi-octobre, au moins 23 civils et un gendarme ont été tués dans les violences. Les organisations de défense des droits humains dénoncent un usage excessif de la force. Un collectif de partis d'opposition, de syndicats et de membres de la société civile a fait descendre à plusieurs reprises des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes dans la rue. Il réclame que le président Alpha Condé renonce au projet qu'il lui attribue de se représenter fin 2020, alors que la Constitution limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. M. Condé, 81 ans, se garde depuis des mois de se prononcer clairement.
Et puis une troisième personne a été tuée par balle hier. Les forces de l'ordre ont tiré sur une ambulance et tué son conducteur qui partait dans une mosquée de Labé pour transporter le corps d'une des 2 précédentes victimes, a précisé le maire de Labé, Mamadou Aliou Lali Diallo. Jean-Roger Billon à ce micro, fin de ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francis pour un nouveau journal. Bon après-midi, bon week-end à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.